Des responsables de la province du Sistan et Baloutchistan ont confirmé l'enlèvement et l'assassinat du religieux sunnite Molavi Abdul Wahad Righi par des inconnus. Des centaines de Palestiniens ont pleuré, un adolescent tué par les forces israéliennes à Ramallah. Et en Somalie, le directeur des services de renseignement dans la région de Gedo a été tué après l'explosion d'une mine au passage de son convoi. C'était les principaux titres, en voici le journal. Des responsables de la province du Sistan et Baloutchistan ont confirmé ce vendredi 9 décembre l'enlèvement et l'assassinat du religieux sunnite Molavi Abdul Wahed Righi par des inconnus alors que la police enquêtait sur l'affaire. Molavi Righi était le responsable des prières du vendredi de la mosquée Imam Hussein à Khash, dans la province du sud-est de l'Iran. Il était également enseignant au séminaire religieux Hausa. Mais Disham Sabadi, le procureur de la province du Sistan et Baloutchistan, a déclaré que le religieux sunnite était présent à sa mosquée jeudi. Mais des inconnus l'ont appelé par la porte arrière et l'ont embarqué dans une voiture sans plaque d'immatriculation. Sham Sabadi a déclaré que les forces locales avaient été mobilisées pour le retrouver. Au final, son cadavre a été retrouvé sur le bord d'une route à Khash. Il a été tué par 3 balles à la tête, a indiqué le procureur. Il a indiqué que la police avait ouvert une enquête. L'érudit sunnite avait auparavant signalé des menaces proférées à son encontre par certains groupes anti-révolutionnaires. Même les groupes d'opposition hostiles m'ont menacé, mais ces menaces ne fonctionneront pas, avait déclaré Righi à une délégation dépêchée dans la province par le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Des images de leur court dialogue montrent qu'il met l'accent sur l'importance de l'ordre islamique en Iran et sur l'unité entre les musulmans chiites et sunnites. Aucun fidèle de la mosquée qu'il dirigeait n'était descendu dans la rue pour participer aux émeutes de Khash. Je leur ai dit que personne n'avait le droit de sortir de la mosquée parce que nous savions qu'il y avait des hypocrites et nous savions ce qu'ils faisaient. Nous sommes conscients des complots des ennemis et des hypocrites, a-t-il déclaré. La province du Sistan et Baloutchistan fait partie des régions touchées par des émeutes soutenues par l'étranger qui ont éclaté après le décès d'une femme de 22 ans, Mahsa Amini, à l'hôpital le 16 septembre, 3 jours après s'être effondrée dans un poste police à Téhéran. Une enquête attribue la mort d'Amini à son état de santé plutôt qu'à des coups présumés de la part de la police. Les violentes émeutes, quant à elles, ont coûté la vie à des dizaines de personnes et des effectifs des forces de sécurité. Au cours des 3 derniers mois, les terroristes ont incendié des biens publics et torturé à mort plusieurs membres du Basij et des forces de sécurité. L'Organisation du renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique a arrêté un certain nombre de chefs de file des groupes contre-révolutionnaires impliqués dans les récentes émeutes dans la ville sainte de Rome et la province d'Ardabil dans le nord-ouest du pays. L'Organisation du renseignement du CGRI a annoncé que plusieurs chefs d'un réseau soutenu par l'étranger, actifs dans le cyberespace ayant joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des troubles, ont été identifiés et arrêtés à Rome. Les membres du réseau ont lancé des appels aux émeutes et distribué des tracts. Ils ont également mené des actions visant à insulter des personnalités religieuses et perturber la sécurité publique, a déclaré l'organisation. Ajoutant que plus de détails sur l'affaire seront bientôt publiés. L'organisation a également annoncé l'arrestation de 3 membres d'un réseau affilié à des mouvements contre-révolutionnaires à Ardabil. L'organisation du renseignement a déclaré dans un communiqué que les suspects complotaient des actes de sabotage contre la sécurité nationale de l'Iran et les installations gouvernementales et militaires avec des cocktails Molotov et en déclenchant des incendies criminels. Le ministère iranien des Affaires étrangères a de nouveau convoqué l'ambassadeur d'Allemagne en poste à Téhéran pour le soutien ferme de Berlin aux troubles et son incitation au terrorisme en Iran. L'ambassadeur d'Allemagne à Téhéran, Hans Saoudo Mouzel, a été convoqué le vendredi 9 décembre au ministère des Affaires étrangères après que le gouvernement allemand a fermement condamné l'exécution d'un fauteur de troubles par la justice iranienne et a remis en cause la décision légitime de la République islamique d'Iran. Les responsables du ministère iranien des Affaires étrangères lui ont notifié la vive protestation de Téhéran contre l'intervention de Berlin dans les affaires intérieures de la République islamique. Plus tôt ce mois-ci, le ministère iranien de l'Intérieur a déclaré que l'ennemi avait profité de l'affaire Mahsa Amini pour mener une guerre hybride contre la République islamique afin d'affaiblir sa cohésion nationale et entraver son développement. Le Conseil de sécurité nationale iranien a annoncé le samedi 3 décembre que quelques 200 personnes avaient perdu la vie lors des émeutes orchestrées par des groupes séparatistes et des terroristes. les responsables iraniens ont indiqué à l'ambassadeur qu'il était extrêmement regrettable que l'Allemagne adopte une politique sélective et à double standard, selon laquelle elle considérait les efforts subversifs comme bons pour les autres, mais mauvais pour eux-mêmes. Les autorités allemandes ont annoncé l'arrestation ce mercredi de 25 membres d'un groupe d'extrême droite, soupçonnés de préparer un coup d'État et une attaque armée contre le Bundestag. L'Allemagne a fourni à l'armée de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein des armes chimiques pendant la guerre imposée à l'Iran de 1980 à 1988. Elle a aussi collaboré avec les États-Unis pour imposer des sanctions arbitraires contre le pays. Vendredi 9 décembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué dans un tweet l'hypocrisie de l'Allemagne envers les récentes évolutions qui prévalent en Iran. Lutter contre le terrorisme, la violence et les discours de haine est une priorité indéniable, a-t-il affirmé, et de poursuivre. Ce qui est hypocrite, c'est que l'Allemagne les considère comme des lignes rouges pour son territoire et sa sécurité, mais incite au même phénomène sinistre en Iran et dénonce de manière trompeuse notre lutte légitime. Des centaines de personnes en deuil ont participé vendredi 9 décembre au cortège funèbre d'un adolescent palestinien abattu par les forces du régime sioniste dans la ville d'Aboud, au nord-ouest de la ville occupée de Ramallah en Cisjordanie. Selon les médias palestiniens, les personnes en deuil ont défilé vendredi dans les rues du village voisin de Beit Rima, au nord-ouest de Ramallah, alors qu'elles portaient le corps de Dia Mohammad Rimavi, 16 ans, qui avait été tué par des tirs israéliens jeudi soir. Le corps a été porté sur les épaules de la famille et des amis du martyr, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. L'air était rempli de drapeaux, des cris de résistance contre l'occupation et de chants en l'honneur de la libération de la Palestine. L'élève de 11e année est le 52e enfant palestinien tué par les forces d'occupation israéliennes depuis le début de l'année. C'est dans la ville d'Aboud que 3 Palestiniens ont été blessés jeudi matin, l'un d'entre eux ayant été arrêté par les forces du régime malgré son état critique alors qu'il était transféré à l'hôpital. Les derniers chiffres portent à 216 le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes depuis le début de l'année, dont 164 en Cisjordanie et 54 dans la bande de Gaza assiégée. Les forces israéliennes ont récemment mené des raids nocturnes et des tueries dans la partie nord de la Cisjordanie, principalement dans les villes de Jenin et de Naplouse, où de nouveaux groupes de combattants de la résistance palestinienne ont été formés. Selon les Nations Unies, le nombre de Palestiniens tués par Israël en Cisjordanie cette année est le plus élevé en 16 ans. Des groupes de défense des droits locaux et internationaux ont condamné l'usage excessif de la force par Israël et sa politique de tirer pour tuer contre les Palestiniens. Les actes de sabotage et de violence commis par les colons contre les Palestiniens et leurs biens sont également devenus quotidiens dans tous les territoires occupés, notamment en Cisjordanie. Cependant, les autorités israéliennes poursuivent rarement les colons et la grande majorité des dossiers sont fermés en raison de l'incapacité délibérée de la police à enquêter correctement sur eux. Les États-Unis ont reconnu qu'ils faisaient pression sur les Nations Unies pour ne pas mettre à jour une liste noire des entreprises faisant des affaires dans les colonies israéliennes en Cisjordanie. Le département d'État américain a publié un communiqué vendredi 9 décembre après que le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que l'administration Biden s'opposerait à la politique d'expansion des colonies par le régime de Tel Aviv. Le département d'État a confirmé vendredi avoir approché le Bureau des droits de l'homme de l'ONU avec des inquiétudes concernant la liste, dont la première publication en 2020 a exacerbé Israël. Toutes les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné à travers plusieurs résolutions le développement de nouvelles colonies par Israël dans les territoires occupés de la Palestine. Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie fasse partie d'un futur État indépendant avec Rots Est comme capitale. Le dernier cycle de pourparlers israélo-palestiniens s'est effondré en 2014. Parmi les principaux points de friction de ces négociations figurait la poursuite de l'expansion des colonies de peuplement par Israël. Le directeur des services de renseignement somaliens dans la région de Gedo, Abdarrahman Abdullah Bakal, a été tué vendredi après l'explosion d'une mine au passage de son convoi. Dans un communiqué publié par la télévision d'État, le directeur du service somalien de renseignement et de sécurité, Mahd Salat, a affirmé que Abdallah Bakal est mort, alors que l'ancien directeur de l'agence, Abdullah Kenini, a été blessé dans les villes de Lourk et Baladawa. Salat a également déclaré que les services de renseignement ouvriront des enquêtes pour déterminer les circonstances de cette attaque, a rapporté le communiqué. Il a par ailleurs souligné que les services de renseignement continueront à viser ce qu'il a qualifié de « kharijites », en référence au mouvement al-Shabab. De son côté, le mouvement a revendiqué cette attaque dans un communiqué publié sur le site d'information Somalia Memo, proche du groupe. Dans son communiqué, il précise « L'attaque a eu lieu vendredi à l'aube, alors que le directeur des services de renseignement de la région de Gedo effectuait une patrouille dans une zone située entre les villes de Dolo et Louk. » Depuis plusieurs années, la Somalie mène une guerre contre le mouvement terroriste al-Shabaab qui a été fondé au début de 2004. Ce mouvement armé, idéologiquement affilié à Al-Qaïda, a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts dans le pays. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Russie, échec des sanctions de l'Union européenne. La présidente du groupe RN au Parlement français, Marine Le Pen, a expliqué être inquiète des possibilités de coupure d'électricité cet hiver. On ne mène pas de guerre énergétique contre la Russie quand on n'a pas d'énergie, a-t-elle dénoncé. Le jeudi 8 décembre, Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, a dénoncé la guerre énergétique que l'Union européenne mène contre la Russie et l'a jugée stupide, rappelant l'impact négatif des sanctions russes sur le manque de carburant et d'énergie en Europe. Le Pen a souligné que les sanctions actuelles contre la Russie auraient des conséquences plus dangereuses pour le peuple français. Les dirigeants de l'Union européenne prévoyaient de lancer une guerre énergétique contre la Russie sans ressources suffisantes, a-t-elle indiqué, ce qui leur a causé plus de problèmes que ceux contre lesquels les sanctions ont été imposées. Suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, les pays européens ont imposé de lourdes sanctions contre le secteur énergétique russe, dont les effets négatifs ont provoqué une crise énergétique sans précédent en Europe. C'est dans ce contexte que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mercredi 7 décembre sa proposition de 9e paquet de sanctions contre la Russie dans le but d'inclure près de 200 personnes, 3 banques et entités supplémentaires en Russie sur la liste des sanctions de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne a également ajouté que le nouveau paquet de sanctions prévoit également d'empêcher la Russie d'acquérir des drones, soit directement, soit par l'intermédiaire de pays tiers. Suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, les pays européens ont imposé de lourdes sanctions contre le secteur énergétique russe, dont les effets négatifs ont provoqué une crise énergétique sans précédent en Europe. Plusieurs quartiers de la capitale française, Paris, ont plongé dans le noir le jeudi soir à la suite d'une panne de courant massif. De nombreuses rues des 3e, 4e et 5e arrondissements de la capitale française ont été touchées jeudi par les coupures d'électricité vers 22h15, heure locale, et le courant a été rétabli vers 23h, indiqué RTE sur sa page Twitter. 125 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de l'incident dans le cœur de Paris, le jeudi soir. La coupure de courant s'est produite alors que les pannes de courant pourraient paralyser les infrastructures en France au cours de la prochaine saison hivernale. Les ministres du gouvernement ont averti que dans les prochains jours, il y aurait la possibilité de nouvelles pannes d'électricité à Paris si l'écart entre l'offre et la demande d'électricité se poursuivait. On craint de plus en plus que les pénuries d'approvisionnement énergétique n'entraînent davantage de pannes de courant qui pourraient affecter les industries et paralyser les infrastructures en France au milieu de l'hiver rigoureux en cours. Le président français Emmanuel Macron avait exhorté les gens samedi dernier à ne pas paniquer face au risque de coupure de courant, soulignant que celle-ci pourrait être évitée s'ils réduisaient leur consommation de 10%. La première ministre Elisabeth Borne a envoyé une circulaire au préfet le 30 novembre qui contenait un plan de coupure d'électricité ciblé et programmé en cas de pénurie d'électricité. L'opposition française a accusé le gouvernement d'incohérence sur le rapport énergétique et les médias informent les Français sur les kits de survie à mettre en place dans un tel scénario. D'autre part, EDF se bat pour remettre en service les réacteurs nucléaires touchés par des problèmes de corrosion. La hausse de l'inflation a également contribué à la catastrophe au milieu du froid mordant, provoquant une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Cela survient alors que les pays européens sont sous le choc de la crise énergétique à la suite de la guerre en Ukraine, qui a fait payer un lourd tribut aux citoyens ordinaires et fait grimper les prix de la nourriture et du carburant. Les sanctions occidentales contre la Russie ont entraîné une augmentation significative du prix du gaz et de l'électricité en Europe. Avant la guerre, qui en est maintenant à son 10e mois, la Russie fournissait 40 à 50% des besoins en gaz naturel des pays européens. Selon les experts, si la guerre en Ukraine ne se termine pas d'ici l'hiver prochain, le secteur énergétique européen sera confronté à des risques plus graves que cette année.